Radio Okapi.
Jacques-Yves Molima pour les journaux.
Jean-Pierre Bemba remplit encore quelques formalités administratives aux Pays-Bas avant de joindre Bruxelles. Et déjà, il donne le ton. Il appelle tous les cadres politiques de la RDC à la responsabilité dans une synergie pour donner aux Congolais ce qu'ils attendent, à savoir l'alternance politique. La non-réhabilitation du pont Kibali, la cause de la journée ville morte à Dungu, ce mercredi décrété par la société civile de ce territoire situé à 780 km au nord-est de Kisangani, c'est une sorte de pression sur le gouvernement provincial. Et puis, Jean-Jacques Mbungani, secrétaire national en charge de la diplomatie au MSC, est notre invité dans ce journal. Il nous révèle les premières déclarations de Jean-Pierre Bemba, juste après sa libération provisoire par la CPI. Voilà tout pour le sommet. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Tout d'abord, cette précision mesdames et messieurs, Jean-Pierre Bemba n'a pas encore quitté les Pays-Bas. Il est en train de remplir quelques formalités administratives avant de joindre Bruxelles. Cependant, juste après sa mise en liberté provisoire par la CPI, il a appelé tous les cadres politiques de la République démocratique du Congo à la responsabilité dans une synergie pour donner aux Congolais ce qu'ils attendent, à savoir l'alternance politique. C'est ce que révèle le secrétaire national en charge de la diplomatie au MLC. Depuis Bruxelles, Jean-Jacques Mbungani répondait à une question de Jeff Ngoy.
Jean-Pierre Bemba n'a jamais abandonné la vie politique nationale congolaise. Il a toujours suivi de très près. En ce moment, particulièrement, il est encore aux Pays-Bas, en Hollande. Aujourd'hui, c'est la CPI. Lui accorde une libération. C'est un très grand soulagement. En même temps, ce soulagement qui peut se manifester par des sentiments de joie est également adjoint de ce que nous appelons le pacte de responsabilité. En tant que cadre politique, en tant qu'ancien vice-président, en tant que président du MSC, Jean-Pierre Bemba appelle à la responsabilité de tous les cadres politiques de notre pays, de manière à ce que nous puissions mettre ensemble une synergie capable de donner au peuple ce qu'il attend, l'alternance politique. C'est un homme qui vient serein parce qu'il revêt en lui toutes les qualités nécessaires de changer la donne en RDC.
Autre information au Kassai, le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Luebo, est arrêté depuis hier soir et gardé au cachot de l'auditorat militaire d'Ilebo. Selon le coordonnateur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme au CDH, au Grand Kassai, l'infortuné a été surpris en flagrant délit avec une fille de 14 ans. Maître Hubert Ngula Njoko recommande que justice soit faite car, dit-il, ce haut magistrat n'est pas à son premier forfait du genre. Il est au micro de Blaise Nongala.
Le procureur de la République, près le tribunal des grandes instances de Luebo, qui est censé protéger les droits des autres et défendre les lois du pays, aurait commis des violences sexuelles sur une mineure d'âge, une fille de 3e des humanités à Ilebo, hier à 19h. La situation était préoccupante. Il a été surpris par le père de la fille, qui est major de FARDC, et le colonel, qui l'ont escorté et acheminé à l'auditorat, où il a passé nuit. Je dois vous rappeler qu'il n'est pas à son premier coup. Ce monsieur ferait déjà l'objet d'un semblant procès ouvert au parquet général, protégé par ses siens, pour avoir commis les mêmes actes. Et au jour d'aujourd'hui, un deuxième acte arrive. Nous pensons que la justice sera au milieu du village pour engager des poursuites judiciaires contre ce magistrat et au besoin saisir son juge naturel qui est la cour d'appel pour que les droits soient dits et que la population se rende compte que la justice est au service de tout le monde.
Contacté, le commandant en place de garnison Ilebo, colonel Trésor Kissimba Nzuzi, confirme les faits et dit chercher les moyens de transport afin d'acheminer ce présumé violeur à Kananga. Et puis, dans le territoire de Rutshuru, une centaine de criminels présumés, notamment des bandits jamais armés et des kidnappeurs, sont en détention préventive depuis plusieurs mois à la prison de Rutshuru, faute de tribunal militaire pour les juger. Parmi ces criminels, ceux impliqués dans l'enlèvement et la tuerie de 5 enfants en avril dernier dans le Rutshuru, ce sont au total 134 détenus que compte la prison de Rutshuru, dont 90 présumés criminels. Le chef de parquet secondaire militaire de Rutshuru déplore cette situation qui, selon lui, ne rassure pas la population. Sifa Maguru.
Dans les territoires des Rutshuru, les vols en main armée, les enlèvements, assassinats et extorsions sont les lots quotidiens des populations, explique l'auditeur du parquet secondaire de Rutshuru. Récemment, 5 enfants ont été enlevés avant d'être tués atrocement, les parents n'ayant pu payer la rançon. Cette situation exacerbe la population qui pense que l'autorité est passive devant cette criminalité galopante, d'où les manifestations civiles à répétition pour réclamer la sécurité. Aussi, l'auditeur indique que tous les civils porteurs d'armes et ceux accusés d'enlèvement ne sont justiciables que devant les juridictions militaires. Malheureusement, il n'y a pas de tribunal militaire à Rutshuru. Il insiste donc sur la nécessité de juger ces grands criminels pour qu'ils payent pour leurs actes, ce qui découragera les potentiels bandits. De tels jugements pourraient aussi, dit-il, rassurer la population. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, dans la province du Haut-Touélé, la société civile du territoire des Dungu a décrété une ville morte ce mercredi dans cette entité située à 780 km au nord-est de la ville de Kisangani. Par cette action, cette structure citoyenne entend exercer la pression sur le gouvernement provincial afin que soit entrepris au plus vite les travaux de réhabilitation du pont Kibali dont les garde-fous détruits par un gros camion il y a plus d'un mois présentent un danger public. Jacques Wami, président de la société civile locale, est joint au téléphone par Jacques Moukonkole.
Aujourd'hui, les activités de la société civile sont vraiment au ralenti. Nous avons essayé de voir, toutes les boutiques sont fermées, magasins, les agences, les stations, tout est vraiment au point zéro. Il n'y a pas de problème côté santé, éducation, l'État aussi, soi-disant l'État travaille normalement.
Pour quelles raisons vous avez décrété cette ville morte?
C'est pour revendiquer à l'autorité provinciale la réhabilitation de notre pont Kibali qui a cédé il y a plus d'un mois et demi.
Le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics a déclaré que le pont sera réhabilité dans les prochains jours. C'est une question de programmation, vous ne le croyez pas?
Vraiment, sa réponse reste encore une réponse très politisée parce que le pont Kibali présente un danger public permanent où nous avons enregistré un grand nombre d'accidents, bien que ce n'est pas mortel.
Autre nouvelle, le secrétaire général de l'UDPS poursuit son séjour dans les provinces du Kassai Oriental et Lomami. Arrivé en Mbujimayi depuis samedi dernier, Jean-Marc Kabund mène une mission de redynamisation de son parti. Lundi, il était à Tshilenge et mardi, il a visité la Fédération des Monnaies d'Itou. Il estime que cette tournée permettra de dissiper tout malentendu en vue de réunifier les éventuelles tendances. Jean-Marc Kabund s'exprime au micro de Chris Mukand.
Nous avons une base considérable ici qui peut nous donner 70-80% de résultats à l'élection législative nationale, par exemple. Alors, pourquoi gâcher cette chance sur base des conflits des personnes? Nous devons nous remettre sur la voie. Et le respect de la hiérarchie doit être de stricte application. Pour mieux vivre ensemble, il faut une certaine discipline. D'ailleurs, raison pour laquelle je l'ai sommé de me faire des propositions consensuelles. Cette fois-ci, dès que ces nominations sortent, nous estimons que les récalcitrants n'ont pas leur place à l'UDPS. Nous n'accepterons plus qu'il y ait des dissidences en Mbujimayi, qu'il y ait des gens qui se mettent à gauche, à droite, pour défier l'autorité établie dans la fédération de Mbujimayi. Je crois que les nominations qui seront faites après ma tournée ici, ça sera pour sanctionner l'unité de la fédération et tourner la page des divisions et des tendances dans la ville de Mbujimayi.
Sud Kivu maintenant, le commandant de la force de la MONUSCO, le lieutenant-général Elias Rodriguez Martins, poursuit son séjour. Ce mercredi, il s'est rendu à Mwenga, ou Virai Baraka, en territoire des Fizi. Mais hier, après son arrivée à Bukavu, il a visité le territoire des Calais pour se rendre compte de la situation des contingents des Nations Unies au Sud Kivu. Le numéro 1 de la force de la MONUSCO a expliqué que la mission de celle-ci reste celle d'appuyer la FRDC dans la stabilisation. Au micro de Kadi Adzuba, le chef de la force militaire de MONUSCO explique.
C'est un grand honneur de travailler en tant que le commandant des forces de la MONUSCO et d'aider la mission à accomplir son mandat et sa mission. Mon objectif principal, c'est d'amener au plus haut degré la protection des civils. La MONUSCO va coopérer avec le gouvernement, mais aussi coopérer avec les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour essayer de donner beaucoup de force à la force FRDC afin de cibler les forces négatives et de les traquer pour une bonne stabilisation. La MONUSCO appuie l'FRDC avec ses capitaux pour l'accomplissement de sa mission. Ainsi, nous allons travailler ensemble pour traquer les forces négatives afin d'arriver à accomplir la stabilisation de la République démocratique du Congo.
Pour rappel, le lieutenant général Elias Rodriguez, de nationalité brésilienne, a été nommé à la tête de la force de la MONUSCO au mois d'avril dernier, en remplacement du général Derrick Mouisselo de l'Afrique du Sud. Au Nord Kivu, le FRDC appelle la population à regagner Ngite, Mangboko et Mavivi, ces localités du territoire de Beni, situées à plus ou moins 20 km au nord-est de la ville de Beni, ont été abandonnées par la population depuis hier mardi, suite à une rumeur sur la présence des présumés ADF dans la région. Le porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord, Soukola 1, annonce le déploiement sur place d'une unité d'élite de l'armée pour sécuriser la population. On écoute le capitaine Makazukai au micro de Martial Papi Mukeba.
L'armée appelle la population de Ngite, Mavivi, Mangboko à regagner leur village. Le commandement des opérations Sokola 1, Grand Nord, a pris de nouvelles dispositions pour la protection de la population de ces trois localités qui suit depuis certains temps l'attaque de l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi utilise la nouvelle arme qui est la rumeur pour désorienter l'armée et aussi faire paniquer la population. Le commandement a décidé de projeter dans ce coin une unité d'élite commando qui va s'occuper de l'ennemi en cas de besoin. Nous avons toujours travaillé avec la MONUSCO, singulièrement la FAIB. Nous avons également remarqué la présence de nos frères d'armes de la FAIB. Nous sommes là pour la protection de la population.
Direction Kalemie, dans la province du Tanganyika, où la princesse du royaume de Jordanie, Sarah Zaid, a visité les sites déplacés de Kalunga et Katanika et le centre nutritionnel de Bwanakusha. Dans sa suite, s'est trouvée également la directrice régionale du programme alimentaire mondial, PAM, Lola Castro. Sur place, la situation des personnes déplacées internes est préoccupante. La princesse Sarah Zaid l'a déclaré au micro de François-Xavier Mibi.
Je suis venu en personne comprendre la situation humanitaire et la complexité des problèmes que rencontrent les déplacés internes vivant dans les sites. 17 000 personnes qui vivent dans des conditions déplorables, cela nécessite une prise en charge. Il y a aussi des enfants touchés par la malnutrition avec tous les risques de freiner leur développement mental. J'ai vécu toute cette réalité. À mon retour, je vais partager et tous ces problèmes avec d'autres gens, afin d'apporter une solution durable à cette crise qui affecte la population congolaise vulnérable.
Célébration ce mercredi 13 juin de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. En RDC, les albinos sont fiers de la reconnaissance qui leur est faite à travers cette journée, a déclaré Mwimba Makisi Texas, président de la fondation qui porte son nom. Cette ONG des albinos organise régulièrement des journées de sensibilisation pour briser les chaînes de la discrimination et créer la solidarité entre tous les albinos. Mwimba Texas est au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
C'est une fierté pour nous parce qu'avant, ce n'était pas ainsi, mais voilà aujourd'hui à travers le monde, je ne cesse de parler des personnes vivant avec albinisme. Donc, de temps en temps, nous organisons de grandes journées de sensibilisation pour demander aux albinos de s'accepter, de se faire accepter. Et puis en plus de cela, demander aussi aux non-albinos d'avoir un comportement d'amour. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons des discriminations criantes, ce n'est pas entre nous les albinos, ce sont les non-albinos. Et puis tout ce que nous réalisons il y a cela 20 ans, du moins avant, les gens regardaient les albinos avec dédain. Mais aujourd'hui, du moins, il y a des avancées significatives.
Dans le cadre de la célébration de cette journée, la Fondation Mwimba Texas organise le 28 juin prochain au zoo ici à Kinshasa une grande journée de sensibilisation sur la situation des albinos.
Actualité Afrique Monde.
La page internationale de cette édition, une extradition ou non, la justice française n'a pas encore tranché sur le sort de
François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé déçu Blaise Compaoré. Le Burkina Faso a émis un mandat d'arrêt contre François Compaoré, arrêté à Paris en octobre. Il est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Finalement, la justice française a renvoyé sa décision au 3 octobre prochain. Et puis, le président Emmanuel Macron a prononcé ce mercredi 13 juin un discours devant le 42e congrès de la Mutualité française à Montpellier. Une prise de parole très entendue puisqu'elle devait tracer le cadre de sa politique sociale. Alors que certains parlaient d'un virage social, le chef de l'État a plutôt fait un retour aux sources de son programme présidentiel.